deuxième chiour sur le Ezio Mekoman. Mais comme je l'ai dit mercredi, Ezio Mekoman, c'est le seul chapitre de Mishnah dans toutes les Mishnayot dans lequel il n'y a pas de machloket, tout le monde est d'accord. Alors ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'on a reçu, il n'y a eu aucune déperdition, tout le monde est d'accord avec ça. On parle principalement des sacrifices. Quand on parle des sacrifices, des différentes catégories de sacrifices, quand on pouvait les manger, jusqu'à quand on pouvait les manger, comment on devait les sacrifier, comment ça se passait. Donc, mercredi, on a déjà fait la première Mishnah qui nous raconte comment se passait, comment se passait donc tout le seder, tout l'ordre du par et saïr, donc du bouc et de la vache qu'on offrait le jour de Yom Kippour. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il rajoutait des sacrifices particuliers. Il y a le bouc, par exemple, on le connaît, c'est le fameux bouc. Il y avait deux boucs, il y avait un bouc qui allait à Azazel et un bouc qui allait Lachem. Et donc, on a expliqué qu'est-ce qu'on les fait, comment on les sacrifiait, on les faisait, etc. Donc maintenant, on passe à la deuxième Mishnah. Vous avez Parim Anisrafim?
Oui, Parim, Anisrafim,
Parim
Anisrafim,
Anisrafim. Alors, il y a maintenant une deuxième catégorie de par. Donc c'est quoi une par? Comment est-ce traduit ici par?
La vache,
Les
le nain,
taureaux.
taureau.
Taureau. Enfin, plusieurs explications de par. Hein. Donc Parim Anisrafim. Donc on va appeler ça un par, c'est plus simple, parce que par, il y a plusieurs traductions. Parim Anisrafim, donc para, c'est une
La
vache.
vache.
Parim Anisrafim, donc le par qui doit être brûlé. Alors pourquoi il doit être brûlé? Alors normalement, on ne le brûle pas. Par exemple, celui de Yom Kippour, on l'a dit dans la première Mishnah, il y a une partie du sang qu'on devait verser sur le Mizbéach, mais le sacrifice, on ne le brûle pas. Enfin, on brûle une petite partie, quoi, mais la majeure partie du sacrifice, on l'a gardé, on l'a donné au Kohanim. Mais il y avait certains sacrifices qui étaient brûlés. Comme par exemple, l'exemple c'est si toute la communauté a oublié une halakha. Comment c'est possible? Ce qu'on appelle le par elem davar. On le dans la paracha Vayikra. Par exemple, toute la communauté comptait sur un bet-din, et le bet-din s'est trompé sur la halakha. S'est trompé sur la halakha, il s'aperçoit, par exemple, le bet-din, il a mal calculé Rosh Chodesh. Il a mal calculé Rosh Chodesh, du coup, vous êtes tout le monde, ils ont fait Pessah, ou Rosh Hashanah, ils l'ont fait avec 2 jours de retard. Et on se rend compte après, ça veut dire que là, dans ce cas-là, c'est toute la communauté qui a fauté. Ça s'appelle Elem Davar, mais on n'a pas fauté intentionnellement. On a fauté parce qu'on ne savait pas quelque chose, parce qu'on s'est trompé. Donc là, dans ce cas-là, le Bet Din doit amener au nom de la communauté un sacrifice d'expiation pour demander pardon à Kadosh Baroukh Hou, en parallèle, bien sûr, à des cours qu'il doit faire pour faire Teshuvah, parce que quand quelque chose comme ça arrive, c'est pas rien. D'accord? C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Alors, ce par-là, ce sacrifice qu'on offrait, devait être brûlé intégralement sur le Mizbéach. Vous voyez, c'est pour montrer que c'est un sacrifice particulier. Il y a aussi un deuxième cas dans lequel on doit brûler, on le part, c'est quoi? C'est si on a un Kohen Gadol, si on a un Kohen Gadol qui s'est trompé, il s'est trompé, il y avait une faute sur laquelle on devait amener un sacrifice, et lui, le Kohen Gadol a donné l'ordre au bâtonnier, je lui ai donné l'ordre, il a dit non, il n'y a pas besoin, vous ne faites pas de sacrifice sur ça. D'accord? Il s'est trompé. Il s'est trompé, et bon, après, il se rend compte qu'il a donné un mauvais ordre. D'accord? Peu importe que ça arrive une fois, deux fois, ou 10 fois, ou 1000 fois, mais il a donné un mauvais ordre. C'est quoi la halakha dans ce cas-là, pareil? Là, c'est le Kohen Gadol de ses propres deniers qui doit amener un sacrifice, et ce sacrifice par sera brûlé intégralement sur l'autel. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle les parim hanisrafim. Nisrafim en hébreu, ça veut dire quoi?
C'est brûlé.
Qui sont brûlés. On a également, ou seirim hanisrafim. Seirim hanisrafim, là, seir en hébreu, c'est un bouc. Et là, donc, on a un deuxième cas, c'est des boucs qui doivent être brûlés. Ah, c'est quoi le bouc qui doit être brûlé? Alors ça, c'est un deuxième cas. C'est lorsque le Beth Din a donné l'ordre de permettre une chose qu'en vérité, c'était la Vodazara. Imaginez-vous qu'on a venu poser la question au Beth Din, est-ce qu'on peut faire ça? Et que le Beth Din dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, imaginez-vous, il y a un truc style yoga qui sort. Voilà.
Faut que ce soit
D'accord?
Vodazara.
Oui. Pour ce cas-là, oui. On pose la question au Beth Din, le Beth Din analyse, il n'y a pas de problème, c'est cachère. Ensuite, ils font une analyse quelques mois plus tard, et ils découvrent qu'en vérité, il y avait l'Avodah Zarah. Le Beth Din a donné la permission, donc entre-temps, vous avez des gens qui ont fauté. Mais c'est pas une simple erreur, c'est une erreur de Avodah Zarah.
Mais le Beth Din, on peut faire une... Combien il y a eu de cas? Est-ce qu'il y a eu un cas
Il y
où
a
le
pas,
Beth Din...
normalement, il n'y a pas. C'est arrivé, dans l'histoire, ça a dû arriver vraiment quelques fois. Mais ça peut arriver. N'oublie pas que, surtout, faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous, on est déjà après l'époque de la Gemara, dans laquelle la majorité des cas, la majorité des grands cas sont déjà passés. Mais à l'époque du Beth Amikdash, on était en train de construire. qu'il y avait des cas qu'on connaissait pas. Des nouvelles choses, on connaissait, on découvrait des nouvelles choses. Donc, certainement qu'il y a des fois où on s'est trompé, mais pas beaucoup. Parce que le Sanhedrin, avant de donner une halakha, il faisait des enquêtes. Mais bon, on pouvait se tromper. Mais là, on parle d'un cas dans lequel ils se sont trompés sur l'idolâtrie. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas un par qu'on offrait, mais c'est un saïr, c'est un bouc. Et pareil, Anis Rafim, d'accord? Anis Rafim, donc on devait le brûler. Alors, ce qui est intéressant, d'accord? Ce qui est intéressant dans ces deux sacrifices que j'ai dit, c'est que, alors ça c'est assez intéressant, c'est qu'il y en a qui disent que ces sacrifices-là, on devait brûler une partie sur l'autel, et que la majeure partie du sacrifice devait être brûlée en dehors de Jérusalem. Vous suivez? Alors c'est même pas sur le misbère, c'est pour montrer, bon, pour montrer qu'il y a un caractère particulier dans ces sacrifices-là. Un caractère particulier qu'on veut vraiment pas profiter.
Pourquoi à l'extérieur de Jérusalem?
Parce qu'il y en a qui disent que c'est un, il y a un caractère d'impureté. En vérité, normalement, on aurait dû le manger. Seulement
donc
Dieu,
paradis,
seulement, oui. Seulement Dieu ne veut pas qu'on le mange. Pourquoi Dieu veut pas qu'on le mange? Parce que Dieu dit, ça, je veux que vous montrer que c'est un sacrifice particulier. Alors. Donc maintenant, on va parler de la manière comment a été fait ce sacrifice. C'est là que c'est pour ça que j'ai amené ce livre-là. Prendre le plan. J'aurais déjà montré une partie mercredi. Voilà. Bon. Donc on a, je vais vous montrer le plan. Donc je rappelle brièvement, voilà. Donc vous voyez, là ici on voit, voilà. Là ici on a une image, vous voyez l'image ici là? On a ici un bâtiment, devant ici on a l'hôtel. L'hôtel on le voit plus grand ici, vous voyez? On voit plus grand, donc on voit un hôtel ici avec une rampe pour monter.
Avec un panier,
alors, donc là vous voyez bien là, oui? On a le bâtiment, l'hôtel devant. Donc, si je prends le plan, donc le bâtiment, l'hôtel devant. Alors, toujours, le bâtiment est toujours vers l'ouest, puisque la Shrina est vers l'ouest. Donc, l'entrée du Beth Amikdash se trouve à l'est. Et donc, automatiquement, la droite, d'accord? Automatiquement, la droite de l'est est toujours... enfin, la droite est toujours le nord, d'accord? Et la gauche, c'est le sud. Non, pardon. La droite, c'est le sud, et la gauche, c'est le nord. On est d'accord?
Quand on est à l'est?
Oui. Est, sud... Ouest.
Ouais.
D'accord.
Non, excusez-moi, non, attendez.
Ouais,
c'est ça. Non, c'est pas ça. Est, nord.
Non.
Non, pardon. Est, sud,
bah oui.
Nord, ouest.
Ouais,
j'ai dit ouest tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, non, parce qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que là, sinon, on ne comprendra pas après. Donc, ce sacrifice-là, Shechitatan, Batsafon. On faisait la Shrita vers le nord. Donc le nord, si je reprends mon plan, on a dit que l'ouest c'est là, l'est c'est là. Donc le nord c'est où?
Ouest.
Quel côté?
Ouest, est,
nord,
c'est là, très bien. Alors, donc la Shrita était dans le nord, ou dans le nord. Vous voyez ici, là? Ici, on avait un style, je vais le montrer mercredi. Ici, on a un style d'abattoir. Un abattoir avec des crochets, des tables en marbre, etc. Un abattoir, comme tout ce qu'il faut. Donc la Shrita, on la faisait au nord. Vekiboul Daman, donc j'ai lu dans les mots, Vekiboul Daman des Chilicharet Batsafan. Le premier sang qui sort de l'animal, on devait réceptionner dans un ustensile de service, Batsafan, toujours dans le nord. Donc c'est ici que ça se passe. Vous voyez le nord, c'est là. Vedaman Taoun, avec leur sang, le sang de ce sacrifice-là, donc on prenait du sang. Donc on a dit on brûlait une partie sur le Misbéar, et la majeure partie, on l'a brûlée, on a dit, en dehors de Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce sang? Alors vous vous rappelez ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on faisait avec le sang de Yom Kippour? Le sang du sacrifice de Yom Kippour, où on le versait? Vous vous rappelez?
Dans le shit.
Dans le?
Dans le shit.
Shit.
Dans le truc où on met les ketorets.
Non, non.
Dans le truc où on met les ketorets.
Vous avez expliqué qu'il y a plusieurs endroits.
Ah, et ça devant le rideau.
Une fois, cette fois.
Non, une fois, exactement. Une fois, cette fois.
Ah, ouais, devant le rideau, on a dit.
Vous vous rappelez, vous voyez comment il faut toujours répéter.
On a dit devant l'arche. Une fois,
alors, une fois en haut, donc, oh, non, mais il faut montrer
cette
fois directement dans le plan général. Voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est l'intérieur du bâtiment. Donc ici, là, le rideau est fermé, là, le rideau est ouvert.
Ici une fois cette fois, ici une fois cette fois.
Alors, et sur l'arche sainte,
une fois quatre fois.
On verse une achat le malav et cheval le mata. Une fois en haut, cette fois en bas.
Là aussi.
À proximité du rideau, pas sur le rideau, pareil, on a dit une fois en haut, cette fois en bas. Sur l'autel.
Quatre fois.
Sur l'autel des ketorets.
Quatre côtés, les quatre côtés.
Sur les quatre côtés et une fois au milieu.
Voilà.
Ça, c'était pour le sacrifice de Yom Kippour. Avec le sang du sacrifice de Yom Kippour. Très bien. Maintenant, on repasse au sacrifice, au fameux sacrifice qu'on vient de dire ici, qui sont des sacrifices assez particuliers. Sacrifice sur des cas assez extrêmes. Donc, pareil, on réceptionne le sang ici. Mais Vedaman Taoun, on devait verser du sang à Zaya, à la parochette, Vel Misbah Hazav. On devait verser du sang à la parochette, donc, sur sur le parochet, sur le rideau, donc à proximité du rideau. Mais là, c'est plus 7 et 1, c'est que 7. D'accord ? Ve'al Mizbach Hazahav est sur l'autel en or. Alors là, c'est qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'autel en or ? Tout à l'heure, on a versé
une
de chaque côté, plus
et une fois au-dessus.
Un au milieu.
Au milieu.
D'accord ? Là, dans le cas de ce sacrifice-là, le sacrifice qu'on vient de dire ici, on verse 7 fois à proximité du rideau qui est là. D'accord ? Donc bien sûr, c'est réceptionné. Et une fois aux quatre coins, mais pas au milieu. D'accord, après Alpi Kabbalah, bon, il est dehors des choses. Là, pour l'instant, c'est la halakha. Là, c'est la halakha. Après Alpi Kabbalah, on pourrait trouver des choses extraordinaires, mais là, pour l'instant, on est dans la halakha.
Même qu'il y a peut-être des tournants des pchats, mais
Non, c'est tiré des psukim, ça. Hein. C'est écrit clairement dans les psukim. Maintenant, après, pourquoi et comment, ça, c'est. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui.
Sans l'occul de sacrifice lui-même. On...
Non, il y a des explications.
Oui.
Par exemple, le fait que quand on met en haut et en bas, ça représente quoi en haut et en bas? D'accord.
Cette fois, bon.
En haut, ça représente la shrina qui vient d'en haut, qui descend en bas. D'accord, c'est-à-dire ça représente beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi Yom Kippour, on faisait une fois en haut, sept fois en bas. D'accord. Ça représente le fait qu'on a à Kadosh Baruch Hu, on a une énergie céleste qui vient de très très haut et qui descend dans les sept sphères, c'est-à-dire qui descend le plus bas possible. Alors que vous voyez, en temps normal, on fait pas une en haut, sept en bas. On fait simplement sept en bas, c'est-à-dire qu'on est encore dans le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des symboles à chaque fois, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, Matana Khatmen,
mais Akavet. C'est pas le sujet, mais c'est bien d'en profiter pour le dire, parce que je pense pas qu'on l'aborderait dans d'autres cas.
Voilà.
Non, c'est important, c'est important, même si c'est pas le sujet, c'est important.
Le concept, c'est ça en général. Quand on dit une fois en haut, cette fois en bas, c'est quoi? C'est que, le concept, c'est que c'est Yom Kippour qu'on versait une fois en haut, cette fois en bas. C'est le symbole pour dire que ça vient de très haut, ça descend en bas.
Et là, ça vient pas de très haut, puisqu'on fait pas la fois unique.
Là, étant donné qu'on est dans l'année, bien que c'est un cas particulier, on va verser cette fois. Mais on prend pas d'en haut, on verse pas en haut, ça veut dire que c'est pas aussi fort que Yom Kippour. Pareil pour le, je vous expliquais pour l'autel. D'abord, vous avez remarqué aussi que là, on fait rien à l'intérieur.
Oui.
On n'ouvre pas le rideau, là. Dans le cas des sacrifices que je viens de dire ici, les sacrifices quand le Bedin oublie quelque chose.
D'accord, entre le rideau et ici devant
voilà. Yom Kippour. Vous avez remarqué aussi que là, que le Yom Kippour, on fait aux quatre coins plus au centre, alors que là, on fait que aux quatre coins. Encore une fois, ça symbolise le fait que la Shrina se répand moins. D'accord? Alors, Matana Khatmehen, Mea Kavet. Si on nommait un seul jet, si on peut appeler, enfin, Matana, littéralement, c'est un cadeau.
Don.
D'accord? Mais là, ici, il ne faut pas le comprendre par cadeau, il faut le comprendre par,
aspersion.
Ouais. D'accord? Donc, un jet de tout cela, donc combien on en a eu ici maintenant? On a dit 7 sur le rideau, plus 4 sur l'hôtel, plus 4 sur l'hôtel qui est à l'intérieur. D'accord? Sur les coins. Donc, c'était combien?
12. 11.
Ça fait combien?
11.
Pas 12. Alors, Matanachat Bazakavet. Chiré Adam, les restes du sang. Aya Chauffer, donc c'est la même chose que la dernière fois. Aya Chauffer, il devait verser. Donc on versait un petit peu, on versait pas des grosses quantités, on versait un petit peu. Hein. Donc ce qui restait avec le sang, qu'est-ce qu'on faisait? Où on le mettait? D'accord? Aya Chauffer, on le versait. Al-Yesod Maharavi, chez Mizvah Ritson. Donc comme je l'avais montré dimanche, mercredi. Donc sur le Yesod Maharavi, donc sur la base ouest. Donc rappelez-vous, on a dit le nord est là, l'ouest est où?
Si le nord est là, l'ouest est là.
Est là. Alors, du côté ouest, ici là, de l'hôtel, il y avait un trou qui tombait directement sur la source.
Et bien, un aménagement.
D'accord. On ouvrait, etc. Il y avait tout un système qu'on a expliqué. Donc, les restes du sang, on les mettait là-bas, et on les gardait pas, on les conservait pas. Parce que c'est quoi le problème avec le sang? C'est que le sang, surtout quand il est chaud, il coagule, d'accord? Il coagule, c'est ça le problème, d'accord? Quand il est chaud, il coagule plus vite quand il est chaud. Enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais...
Pourquoi aujourd'hui ça pourrait changer?
Alors on va pas le chauffer. Bah, il y a pas... quelqu'un qui...
Non, de toute façon, le sang qui coule est chaud aujourd'hui.
Il coule du corps. Oui,
il est chaud.
Il sort chaud.
Il sort 37 degrés, ouais.
Je crois que le sang chaud, il coagule plus vite que le
sang chaud. Ah, Ramsine! Pancho!
Quoi qu'il en soit, là c'est en quelques minutes que ça se passe, hein.
Il attendait qu'on le dise.
D'accord, ouais.
Ouais, il attendait, il dit qu'il savait dire le sang chaud.
Tu le chauffes, c'est sûr.
Donc, Shire Adam et Chauffer, Aliesod Maravi, Shemizbah, Harrison. Donc les restes du sang, les versets où on a dit, donc ici là sur l'hôtel, bon, j'ai pas de plan plus grand, mais...
Dans le trou qui va...
Voilà, il y a un trou. Ouais.
Mais ce trou...
Ouais, il ne montre pas.
C'est pas... Moi, je me répète peut-être.
Il va nous faire un jeu de mots encore.
Il paraît qu'il va au fondement du monde.
C'est pas au fondement du monde. Non, c'est pas au fondement du monde. C'est écrit c'est pas exactement la fin du monde. C'est écrit qu'il va dans une source qui a un jet qui est beaucoup plus fort que les autres sources. Normalement, une source, ça coule doucement. Et là, c'est une source qui coule très très vite. Et on dit que c'est les fameuses sources que le roi David, lorsqu'il a construit Beth Amigdash, il a touché à ces sources-là. Il y avait de l'eau qui coulait partout, enfin, tout Jérusalem était inondé. Et on dit qu'on avait peur que le monde soit inondé. Bon, c'est une question, monsieur.
Et pour ça qu'il a fait les Shiramalot.
Il a tout essayé, ils ont essayé de la bloquer, impossible de la bloquer. Apparemment, c'est une source qui a un jet qui est assez fort. Un peu comme un torrent, quoi. Alors, donc, rappelez-vous, donc sur l'autel, on verse le restant du sang sur le trou qui devait être assez grand, d'accord ? Chez Mitzbeh Harison, donc de le, donc sur le, donc là, le, donc ça veut dire, oui, mais attendez, faut pas oublier. On versait, on a dit 4 fois, 4 G. 4G.
4
aspersions. Ah oui. 4G, 3G, il y a le 3G et la 4G. Alors, 4G sur l'hôtel qui se trouvait à l'intérieur. Vous voyez cet hôtel-là ? Il se trouve à l'intérieur du bâtiment. Vous vous rappelez le bâtiment ? Ça se trouve à l'intérieur du bâtiment. J'entends un peu son.
Juste une question. Ça, c'est quoi ? C'est des fenêtres ?
Oui.
Quel était l'intérêt de ces fenêtres ? Je suis venu d'éclairer l'intérieur, mais pourquoi on mettait des fenêtres en haut, des fenêtres en bas ? Je sais, il n'y a pas d'étage ici.
Non, pas d'étage. Hein. Bah, c'est comme
lumière.
C'est la lumière.
C'est un haut plafond. C'est...
Bien qu'il arrête. Bon, bien que techniquement, là on le voit ici. Je sais pas si vous remarquez, les fenêtres sont étroites à l'intérieur et ils l'ont bien fait dans ce dessin. Et larges vers l'extérieur. Vous voyez, vous remarquez ou pas?
Ça rentre comme ça.
Vous voyez dans le dessin, regardez.
Oui.
On disait que la lumière venait de l'intérieur.
C'est un des. Vous voyez
le contraire des meurtrières des châteaux forts.
Normalement, c'est le contraire. Normalement, c'est, et là, on le voit clairement dans cette image-là. On voit que l'extérieur est large. Alors, c'est parce que la Gemara a dit, c'était un symbole pour dire que c'est du Beth Amigdash que la Shrina sortait pour le monde entier. D'accord? Mais bon, il y avait de la lumière qui est rentrée aussi. Mais de la lumière. D'accord?
Bien sûr.
Mais de la lumière. Alors, donc, Shira Adam, oui?
Non, en réalité, quand on faisait ça, parce que je pense que c'est, dans les châteaux forts, c'est un peu la même chose, tu parles des meurtrières. Je pense que justement, non, ils faisaient toujours ça, parce que c'était le système, c'était de prendre le maximum de lumière avec ses, et de le rentrer ensuite pour qu'elle se diffuse mieux.
Ah non, le concept était différent. Non, la Gemara explique, non.
Qu'on puisse, d'une part, avec
la Gemara explique, la notion est comme ça. Que le problème qu'on a, c'est que la fenêtre, quand t'as la lumière qui rentre, surtout quand t'as la lumière du soleil, il faut pas qu'elle reste sur un endroit, il faut qu'elle éclaire le plus possible, il faut qu'elle se diffuse. D'accord? Bon, c'est une technique de l'époque, je sais pas comment faut, aujourd'hui on a les lumières. Alors, Shira Adama et Shofar, Nassad Maravi, Shalmizbeh, Haritzon. Donc les restes du sang, on les versait sur le côté ouest, on l'a montré ici, de l'hôtel qui se trouve à l'extérieur. D'accord? Ça c'est le bâtiment, l'hôtel qui se trouve à l'extérieur, donc ça veut dire que tout le monde était servi. Par contre, Imlo Nathan le Hikev, si ce sang-là, il est tombé par terre, on l'a pas mis là-bas, est-ce que c'est pas de problème? D'accord? Si le reste du sang, il est tombé par terre, c'est-à-dire on a déjà mis tout ce qu'il fallait à l'intérieur, mais on n'a pas mis sur l'autel, est-ce que ça pose problème? Non, parce que finalement, la raison pour laquelle on mettait ici dans cet hôtel-là, c'était pour s'en débarrasser. Celui-là, Imlo Nathan le Hikev, s'il a pas mis le Hikev, c'est pas grave. Elu Vaelu Nisrafin Bevet Adachen. Alors là, nous dit la ville, la Mishnah, il nous dit quoi? Il nous dit que et le sacrifice de Yom Kippour, d'accord? Et les autres sacrifices qu'on a dit ici qui devaient être brûlés, quand on dit qu'ils devaient être brûlés, ils devaient être brûlés où? Ils devaient être brûlés dans un Bevet Adeshen, littéralement, traduction de Bevet Adeshen, c'est la maison de la cendre.
Ouais, j'aime bien.
D'accord? Comment ils traduisent une maison de la cendre? Le foyer des cendres. Comment on dit un endroit où on brûle tout?
Crématoire.
Oui, bon, à part si vous avez un autre mot. Bon, alors, on n'utilise pas ce mot-là.
Attends, ça veut dire...
l'endroit destiné à la cendre.
Oui, enfin, il voulait pas dire le mot crématoire. En fait.
L'endroit destiné à la...
On n'aime pas ce mot chez nous. D'accord, bon, quoi qu'il en soit. Alors, passons, bon, Elou Benisrevi, une bête à la chaîne, une petite histoire sur ça, on raconte qu'une fois, il y a un rave d'une ville, qui s'est rendu compte que tous les matins, il y avait un paysan qui venait à la synagogue et il faisait une bracha à ses enfants. Non, c'est un paysan qui ne parlait pas hébreu. Donc, quand il ne parle pas hébreu, ben, il prend un des mots de la tchila et toujours, tous les jours, il prenait ses enfants et il les bénissait avec des mots de la tchila. Quel mot il a choisi pour les bénir? Il a choisi ces mots-là. Elou Vaelou Nisrafin Devet Adachen. Traduction. Ceux-là et ceux-là seront brûlés dans le crématoire. Non, lui, bon, c'était un mot qu'il avait marqué dans la tuila, mais il savait même pas ce que ça voulait dire. Alors une fois le rav il passe à côté de lui et il entend, il voit le rav, il voit, bon, apparemment il voit qu'il est en train de bénir ses enfants et il entend dire Elou Valou Trafi Vazatachen. Rav il dit, mais vous savez ce que t'es en train de dire monsieur?
Grave.
Vous êtes fou ou quoi? Le rav il lui dit arrêtez-vous, vous êtes fou ou quoi monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc non mais bien sûr le paysan il a eu peur, il a arrêté, bon. Il n'y a pas de problème, je te dis pas le prix. Bon. Non, écoutez bien.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Le rave,
dans la nuit.
Le rave, il a eu un rêve.
C'était un vendredi. Dans la nuit, vendredi soir, il a fait un rêve. On lui a dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas content que vous lui avez enlevé un sacrifice. Et à cause de ça, vous allez mourir.
Le rave.
Pourquoi il va mourir? Il dit, mais je comprends pas. Vous avez vu ce qu'il disait? Il dit oui. Alors ça, c'est une histoire très difficile à comprendre. Il dit oui, c'est vrai que les mots qu'il disait n'étaient pas adaptés, mais avec la kavana qu'il avait devant Kadosh Baruch Hu, c'était un sacrifice extraordinaire. Et le Rav Niftar. Rav Niftar. Il a eu le temps de raconter cette histoire, mais bon, il a exéré, c'est fini. Enfin, quand on avait un rêve comme ça, ça veut dire qu'on finissait pas son année. Et il n'a pas fini son année. On vous dire, bon, bien sûr, le paysan, c'est fini. Ça peut plus être un sacrifice, maintenant il sait ce que ça veut dire. C'est fini, il peut plus redire.
Ah oui,
oh, ça nous rappelle aussi l'histoire de la fameuse histoire que je suppose vous connaissez, du cocorico du Baal Shem Tov. Vous connaissez l'histoire
quelque chose.
Pareil, bon, enfin, une petite anecdote. D'accord, après on va faire comme petite Mishnah. Quelle heure il est? On n'aura pas le temps de faire Mishnah. Bon,
c'est une vraie histoire du Baal Shem Tov.
Vraie histoire du Baal Shem Tov. Une fois le Baal Shem Tov,
d'accord, tout.
Une histoire qui a été racontée par ses élèves. Une fois comme ça, le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves. C'était le jour du Yom Kippour. Et on sentait que le Baal Shem Tov, la tefila prenait du temps, le Baal Shem Tov s'était arrêté dans la tefila et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bon, alors, apparemment il était en train de négocier, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et à un certain moment, donc ça durait comme ça des heures. Le Baal Shem Tov était en train de prier, il disait chaque mois avec grande kavana, mais ça durait des heures, les élèves ont compris qu'il y avait de l'embrouille, qu'il y avait quelque chose qui se passait. À un certain moment, on approchait de la fin du Yom Kippour déjà. Et vraiment, le Baal Shem Tov, bon, ça traînait. Et il y a un paysan qui rentre, pas un paysan, enfin quelqu'un apparemment, quelqu'un qui s'occupe des... Un fermier qui rentre,
métayer.
D'accord, un fermier qui rentre dans la synagogue et qui se met à crier, il voit tout le monde en train de pleurer comme ça, il se met à crier « Cocorico, Cocorico !» Bien sûr, qu'est-ce qu'ils font les élèves du Baal Shem Tov? Tout de suite, ils disent « Chut, Baal Shem Tov, il est occupé !» Non mais c'est pas ça, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le fou celui-là? Yom Kippour, ça a tourné la tête. Et là tout d'un coup le Baal Shem Tov se met à devenir très joyeux et il accélère, il trace qu'à la fin de la tefila et il finit sur Yom Kippour.
Il finit
la tefila de Yom Kippour, bon, il finit après, etc. Bon, le Baal Shem Tov a l'habitude de faire la tefila, le repas à la suite de Yom Kippour avec ses élèves. Ah bien sûr, il y a un des élèves qui pose la question, il dit qu'est-ce qui s'est passé?
Eh oui.
Raconte-nous ce qui s'est passé. Quelque chose. Bon, nous on était là. Alors elle a dit, je vais vous raconter. Elle a dit, ce jour-là, quand je suis monté dans le ciel, entre guillemets.
Ce moment-là.
Non, depuis ce jour-là, depuis le début de la journée, j'ai senti qu'il y avait un grand décret qui devait tomber sur l'âme Israël cette année-là. C'est impossible de l'enlever. On était plusieurs tzadikim, impossible de l'enlever. Impossible, on a fait des tfilotes. Vous aussi, vous avez fait des tfilotes. Chacun a rajouté sa tfila, mais ce décret-là, le Satan, rien à faire. Qui c'est qui a réussi à enlever le décret? C'est ce juif-là, il dit, je vais vous raconter ce fermier. Ce fermier, c'est quelqu'un que toute l'année, il va pas à la synagogue. Parce qu'il n'a pas de synagogue dans son village. Il est loin.
Il ne connaît pas un mot
d'hébreu. D'accord, il ne connaît pas un mot d'hébreu. Et ce jour du Yom Kippour, il a eu un éveil, il a dit, il faut que j'aille à la synagogue. Il est parti à la synagogue. Il est rentré à la synagogue, il a vu tout le monde en train de pleurer, enfin il a compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Il voulait aussi participer, mais il ne connaissait pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit?
La seule qu'il connaît,
il dit bon, moi je sais que quand un coq il a envie qu'on lui donne à manger, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cocorico, il crie. Alors moi aussi je vais crier à Dieu cocorico et Dieu il va comprendre. Il se dit comme ça dans sa tête. Et il s'est mis à crier cocorico. Et il a dit ce cocorico de ce fermier là, il était tellement pur, ça a enlevé tous les décrets du Satan. On montrait que la kavana c'est très important. Voilà. Et Lou Valoun sera fini de vêter des choses.
Là j'ai une histoire véridique.
C'est là aussi
Napoléon, histoire véridique. Napoléon, vraiment véridique, a été reporté par des historiens et vérifié. En 1814, Napoléon et son armée de 600 000 hommes s'apprêtent à envahir la Russie. Hommes, hein. Et sur leur chemin, ils s'arrêtent, ils passent par la Pologne.
Oui.
Et en Pologne, qui est-ce qui fournit l'armée l'armée napoléonienne en voiture et de chevaux et tout ça, c'est des juifs, des commerçants. Et puis, un jour, il n'y a aucun commerçant qui vient. Ouais. Il n'est pas trop.
C'est la Shabbat.
Ouais. Ouais. Et il dit, mais c'est pas Shabbat aujourd'hui, c'est pas Shabbat. Et on lui dit, non, c'est pas Shabbat, c'est le 9 Av. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av? Il dit, 9 Av, on a détruit le temple des Hébreux et ils ont été chassés de leur pays. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Napoléon? Il a dit.
Il a posé la question, il dit, ça fait combien de temps qu'il était détruit?
Oui, attends. Et il a dit, un peuple qui, 17 siècles après, pleure la destruction de son temple et la perte de son pays, mérite de revenir très vite dans son pays. Et c'est vrai, hein, c'est pas des blagues.
Je l'ai raconté, Shabbat, cette histoire.
Tu l'as raconté?
Ouais, le cours de Shabbat après-midi, au début du cours. Bon, mais bon, on n'avait pas besoin.
C'est vérifié.
On n'avait pas besoin qu'ils disent,
non, mais en plus, quand il était en Palestine, je vais t'amener une lettre qu'il a écrit Napoléon. C'est incroyable, je vais l'amener.
En fait. Ouais, c'est bien.
Quand il était
Loin d'être bête, c'est sûr, hein. Voilà, Shabbat Shalom.